nous avons choisi a été publié à la veille de la Première Guerre mondiale en 1911. Il s'agit de La sociologie du parti dans la démocratie moderne de Robert Michels, l'un des pères fondateurs de la théorie des élites. Et pour en parler, nous avons invité Julia Cagé. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, enseignante-chercheuse à Sciences Po et auteur du Prix de la démocratie publié chez Fayard. Je rappelle également que vous avez été responsable du programme économique de Benoît Hamon lors de la campagne présidentielle de 2017. Alors Robert Michels a été le premier à proposer une sociologie critique des partis politiques et il est resté célèbre pour sa fameuse loi des reins de l'oligarchie. Est-ce que vous pouvez nous présenter, pour commencer, Julia Cagé, ce sociologue et militant politique né à Cologne en 1876 et mort à Rome en 1936?
Oui, alors c'est un personnage très complexe, hein, Robert Michels. Donc c'est un sociologue allemand qui était un des disciples de Max Weber. Et ça a été le premier sociologue à vraiment analyser les partis politiques comme des organisations. Mais en même temps, on y reviendra, les partis politiques sont une invention relativement moderne. Nous, aujourd'hui, vu du XXIe siècle, on a l'impression qu'ils ont toujours existé, mais ils apparaissent à la fin du XIXe siècle. Et en fait, lui, il les analyse quasiment dès leur création. C'était un intellectuel qui a pas vraiment eu beaucoup de chance à l'université en Allemagne. D'ailleurs, ça a créé un conflit relativement fort entre lui et Max Weber. Enfin, il n'a pas eu poste de professeur qu'il aurait voulu avoir, ce qui peut paraître ironique aujourd'hui avec le recul, vu l'importance qu'il a pu avoir dans la pensée sociologique et d'ailleurs de la pensée en sciences politiques plus généralement. C'est un intellectuel et alors ça c'est assez frappant parce que finalement moi je pense que ça marque beaucoup tout ce livre, mais il n'en parle pas, qui a échoué comme candidat au SPD, au Parti Social-Démocrate allemand en 1903 et il n'en parle pas, mais moi je pense que ça se reflète, cet échec électoral tout au long de ce livre. Ensuite, il part en Italie, pas tant à cause de cet échec politique, mais plutôt à cause de son échec relatif universitaire. Et finalement, en Italie, il se rapproche beaucoup plus de la pensée de Pareto, qui a été le grand penseur des élites, que de la pensée de Weber. Et il finit malheureusement fasciste, en fait, Robert Michels. Et ça, on le voit un tout petit peu émerger, cette espèce de trajectoire pessimisto-fasciste quand on lit ce livre, mais moi je pense qu'il ne faut pas jeter ce livre aux oubliettes de l'histoire parce que son auteur malheureusement a une trajectoire personnelle relativement regrettable.
Alors dans son ouvrage Sociologie du parti dans la démocratie moderne, Robert Michels dénonce l'illusion de démocratie au sein des partis politiques et l'idée centrale de cet essai, c'est que toute organisation finit par devenir oligarchique, même les partis révolutionnaires qui font de la lutte contre l'oligarchie leur raison d'être n'échappent pas à cette fameuse loi des reins. Julia Cagé.
Oui, alors bon, il faut savoir ce qu'il y a dans le livre et ce qu'il n'y a pas dans le livre. La première tentative de penser les partis comme des organisations, donc de ce point de vue-là, c'est une contribution extrêmement importante. Ensuite, il pense les partis, mais empiriquement, ce qu'il regarde vraiment, c'est uniquement les partis allemands, français et italiens entre 1870 et 1910. C'est déjà une contribution importante, mais je pense que s'il avait regardé davantage les partis, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, il aurait sans doute eu des conclusions relativement différentes. Et d'ailleurs, Dans la préface du livre qu'écrit Lipset en 1961, il critique beaucoup Michels là-dessus parce qu'il critique notamment le pessimisme de Michels et il dit en fonction des différents modes d'organisation, on peut avoir des partis qui sont moins oligarchiques. Regardez notamment l'exemple des États-Unis avec les primaires. À l'époque où écrit Michels, il y a déjà les primaires pour les partis politiques américains, mais c'est juste que Michels a cette approche qui est proprement européenne. Moi, j'aime beaucoup ce livre. Il est un peu décousu. Il est un peu décousu dans le ton, il est souvent pamphlétaire, mais c'est quand même vraiment stimulant dans la présentation des partis politiques. Et puis ce qui est assez stimulant aussi, c'est sa volonté parfois d'avoir recours aux données. Donc notamment, il essaie d'avoir à certains moments des statistiques pour montrer que les membres, notamment les principaux dirigeants des différents partis, notamment du SPD en Allemagne, ne sont pas à l'image de l'ensemble de la population allemande, alors que c'est un parti socialiste et beaucoup plus socialiste à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui. Hein. Donc à la base, c'est quand même des partis qui ont une histoire relativement révolutionnaire. Mais dans ces statistiques, finalement, il va avoir des pourcentages un peu décousus, où on va avoir l'évolution du pourcentage de patrons de peuple, par exemple, parmi les membres du Parti Social-Démocrate allemand. Donc c'est à la fois une des limites du livre, mais c'est ce qui le rend aussi sympathique, parce que c'est un livre qui est important dans l'histoire de la pensée, et on voit aussi comment va se construire la pensée en sociologie, en sciences politiques, et plus largement en économie, en fait, en sciences sociales, sur l'étude quantitative des partis politiques.
Et alors, comment expliquer cette tendance à l'oligarchie au sein des partis politiques qui constituent peut-être, pour Robert Michels, des États miniatures? Pour lui, c'est lié à un instinct héréditaire qui serait à l'œuvre au sommet de la hiérarchie des partis. Et il parle aussi d'un préjugé aristocratique.
Oui, enfin, il y a énormément de différents facteurs qui jouent pour lui. Et d'ailleurs, c'est là où vraiment il utilise les partis comme organisation. Donc, il y a une dimension dans ce qu'il développe dans le livre qui est une dimension psychologique. Et ça, il a une dimension psychologique très claire où il dit une fois que, voilà, même si on a des ouvriers, une fois que les ouvriers sont membres du parti, ils vont avoir tendance à s'embourgeoiser. D'une certaine manière, moi, je trouve que c'est la partie du livre qui est la plus faible, notamment si on la compare aux travaux contemporains qu'on peut avoir, par exemple, de la part d'un politiste comme Nicolas Carnès aux États-Unis, qui a très bien documenté dans son livre White Collar Government le fait que si vous prenez
le gouvernement
des cols blancs. Donc il y a deux choses dans le livre de Nicolas Carnès. Il y a d'une part le fait de documenter très clairement l'absence de cols bleus, donc d'ouvriers et d'employés parmi les représentants à la Chambre aux États-Unis. Et il montre en fait que quand on regarde comment votent les quelques cols bleus ouvriers, employés qu'on a à la Chambre des représentants aux États-Unis par rapport à la manière dont votent les cols blancs, ils votent complètement différemment, notamment sur toutes les questions de salaire minimum, de fiscalité. Et d'ailleurs, il refait des calculs et il montre qu'un certain nombre de lois qui sont passées par exemple sous George Bush en termes d'allègement de la fiscalité ne serait pas passé si on avait eu une meilleure représentativité de la Chambre des représentants aux États-Unis. Et d'une certaine manière, moi, ça me gêne un peu cette théorie psychologique, on va dire, de Robert Michels, parce que c'est souvent un argument qui est utilisé pour ne rien faire. Dans le prix de la démocratie, je défends l'idée de ce que j'ai appelé une assemblée mixte, c'est-à-dire vraiment cette idée d'introduire de la parité sociale à l'Assemblée nationale en ayant pour un tiers des sièges une liste à la proportionnelle qui soit mixte socialement. Et en disant, aujourd'hui, on a un déficit de représentation qui a des conséquences très concrètes et il faut finalement utiliser les outils de l'état de droit pour faire rentrer des ouvriers, des employés à l'Assemblée nationale. C'est vrai que les gens qui sont conservateurs et qui ne veulent rien faire, souvent, de ce point de vue-là, se reposent beaucoup sur des théories qu'a initié Michel en disant mais en fait ça ne changera rien parce qu'une fois que tu auras un ouvrier et qu'il deviendra député, il votera comme un député. Sous-entendu, il votera comme un bourgeois. Moi, ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est faux.
Pour continuer peut-être dans le pessimisme de Michel, ce qu'il dit aussi, c'est que plus l'organisation partisane se développe, plus on voit émerger une bureaucratie peuplée par des dirigeants professionnels qui vont s'appuyer à la fois sur la maîtrise des ressources collectives dégagées par l'organisation et le développement des savoir-faire. Alors, quel est votre regard sur ce déterminisme quand un parti politique grossit?
Oui, alors c'est intéressant. Pour moi, il fait ses développements dans l'un des chapitres les plus passionnants de son livre, qui est sur le pouvoir financier des leaders du parti et du parti. Et notamment, là, on voit le rôle joué par les structures organisationnelles, et notamment par les structures de financement. Et il compare le Parti Socialiste français au SPD allemand. Et il dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il dit, en France, on a des députés qui sont payés, et qui sont trop bien payés d'ailleurs, d'après lui, par l'État. Et il dit, voilà, en 1893, on a 6 élus socialistes en France, dont le plus connu est sans aucun doute Alexandre Mineran. Et en gros, il dit, ils vont tous fuir le parti à cause de cette modalité de financement pour ne pas avoir à reverser leur indemnité. Et si je voulais faire un petit clin d'œil dans l'actualité, les députés qui actuellement, aujourd'hui, ne reversent pas une partie de leur indemnité à leur parti, c'est les députés de La République En Marche. À l'époque, c'était les socialistes à la fin du 19e siècle en France. Donc on se dit, bah écoutez, oui, alors ça explique finalement le fait qu'il n'y ait pas de fidélité des élus au parti, puisque en fait ils finissent par quitter le parti, donc c'est mieux d'avoir des structures de financement alternatives. Et donc là, Michel se prend l'exemple allemand. Il dit, et en Allemagne, on a une beaucoup plus grande fidélité des leaders à leur parti, on n'a pas eu des trahisons en Allemagne. Alors il parle de désertion vers le camp bourgeois. Il dit, on n'a pas eu de désertion vers le camp bourgeois en Allemagne comme on a pu en avoir en France. Pourquoi? Parce que ce sont les partis qui paient en Allemagne. Ce sont les partis qui paient leur permanence, ce sont les partis qui paient leurs activistes, et ce sont aussi en Allemagne les partis qui paient leurs élus, puisque les indemnités parlementaires en Allemagne ne sont introduites qu'en 1906. Donc on arrive à la fin de ce chapitre, on se dit, bah tiens, donc en fait, pour éviter la dérive bourgeoise, le système allemand est préférable. Mais quand même, non. Parce que dans le système allemand, ça conduit vers un système qui est trop bureaucratique, avec des professionnels de la politique, et finalement, on a aussi cette tendance à l'embourgeoisement. Et c'est là où, quand même, Michel, c'est vraiment pessimiste, parce qu'il décrit deux systèmes, en pointant du doigt leurs défauts, mais à l'arrivée, il n'y a rien qui va, quoi.
Alors, en même temps, le problème que soulève Robert Michel, c'est qu'aucun groupe social ne peut exister sans les organisations. Alors, vous avez parlé du financement, mais que préconise-t-il d'autre, et qu'est-ce que vous préconisez, Julia Cagé, pour empêcher justement cette captation du pouvoir par quelques-uns au sein des partis?
Moi, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut fondamentalement repenser aujourd'hui. D'une part, il faut repenser le financement public des différents partis. Aujourd'hui, on souffre d'une part de la tendance à l'embourgeoisement des partis qui se voit par le manque de représentativité, notamment au niveau des assemblées. Donc, tout à l'heure, je citais Nicolas Carnès, qui montre que depuis 1950 aux États-Unis, on a eu systématiquement moins de 5% d'ouvriers et d'employés à la Chambre des représentants américains, alors que les ouvriers et les employés, c'est 50% de la population active aux États-Unis dans le prix de la démocratie. Je me base d'ailleurs sur des travaux qui ont été faits par exemple par Luc Rouban, au CVPOF et par d'autres. On a aujourd'hui moins de 5% de députés, ouvriers et employés en France à l'Assemblée nationale. Donc il y a, c'est vrai, cette tendance à l'embourgeoisement, mais c'est même plus de l'embourgeoisement au sens de Michels. C'est même plus des ouvriers finalement qui désertent vers le camp bourgeois, c'est qu'on élit directement des bourgeois. Et j'utilise cette terminologie parce que c'est celle de Michels aujourd'hui. Elle semble un peu datée. Mais le deuxième problème fondamental aujourd'hui, c'est qu'on a une capture aussi du jeu politique qui se fait à travers les financements privés de la démocratie. Et le fait qu'aujourd'hui, les partis politiques reposent majoritairement sur des financements privés qui sont le fait des individus les plus favorisés. Si on regarde aujourd'hui qui donne aux partis politiques en France, en moyenne, vous avez moins de 1% des ménages qui chaque année font un don aux partis politiques. Ils sont 10% parmi les 0,01% des Français revenus les plus élevés. Donc on voit qu'il y a un phénomène de classe finalement dans les dons aux partis politiques. Donc moi je propose deux choses, c'est que un, plutôt que d'autoriser aujourd'hui en France à ce qu'on puisse donner 7 500 € par an à un parti politique, on abaisse cette limite drastiquement à 200 € pour égaliser l'ensemble des citoyens. Et d'autre part, de repenser le financement public de la démocratie avec les bons pour l'égalité démocratique qui sont un même montant de financement public. Donc dans mon livre je propose 7 €, on peut discuter du montant, mais ce qui est important c'est l'aspect égalitaire, un même montant de financement public pour chacun des citoyens, indépendamment de ses revenus.
Robert Michels est sans cesse mentionné par les auteurs qui ont eux-mêmes tenté d'engager une critique des partis politiques, qu'il s'agisse de théoriciens critiques radicaux comme Guy Debord, de sociologues comme Pierre Bourdieu ou d'activistes politiques. Est-ce que vous diriez, pour conclure, Julia Cagé, qu'il a apporté véritablement une contribution essentielle à la sociologie critique des partis?
Il a créé la sociologie critique des partis. Donc de ce point de vue-là, oui, sa contribution est vraiment essentielle. Et d'ailleurs, si je pouvais dire un tout petit mot sur le dernier chapitre du livre. En fait, il le publie en 1911 en allemand. Il est publié en 1912 en italien. Après, il est publié en français. Il va le publier en anglais plus tard, en 1915, pendant la guerre, avec un nouveau chapitre qui s'appelle Party Life in Wartime. Pour moi, c'est le meilleur chapitre du livre, qui dit beaucoup, parce qu'il en vaut beaucoup à ce moment-là au SPD allemand. Et en fait, il dit, j'avais vu cette tendance à l'embourgeoisement, mais pour moi, cette tendance à l'embourgeoisement explique pourquoi les députés en Allemagne comme en France ont voté pour la guerre là où ils auraient dû voter pour la paix. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'on a un peu trop souvent tendance à oublier Michels par rapport à Weber et Durkheim. Weber et Durkheim, à la même époque, notamment Weber, mais Durkheim également, sont farouchement nationalistes. Et ils font chacun la guerre dans leur camp. Ils prennent position pour la guerre, ils prennent position dans la guerre. Et de ce point de vue-là, Michels, lui, en 1915, est pacifiste. Et c'est vrai que il a des mots assez forts pour dire que si on avait des représentants qui soient davantage à l'image du peuple, des catégories populaires, ils n'auraient sans doute pas été autant en faveur de la guerre. Et je pense que c'est une des leçons qu'il faut garder en tête aujourd'hui.
Merci beaucoup, Julia Cagé. Elle est venue nous parler de l'enquête sur les tendances oligarchiques de la vie des groupes de Robert Michels, donc qui est le titre qui était ainsi traduit lors de sa première traduction en 1912. Je rappelle vos ouvrages, Julia Cagé, Le prix de la démocratie, publié cette année chez Fayard, et Sauver les médias, capitalisme, financement participatif et démocratie, paru au Seuil. Un grand merci.